En 1912, à la Sorbonne, Alfred Dreyfus évoquait le 20 juillet 1906.
Le 20 juillet 1906, c'est une belle journée de réparation pour la France et la République.
Grâce à un enregistreur pâté, Dreyfus évoque sa réhabilitation et la fin de son affaire.
Mon affaire était terminée. Le lieutenant-colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence.
C'est l'unique archive que nous possédons de sa voix, un véritable trésor. Deux ans plus tard, en 1914, la marche de l'histoire rattrape le capitaine Dreyfus.
C'est la guerre, les gars.
Et c'est la trame de ce nouvel épisode.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'affaire Dreyfus durera 12 ans. C'est le prototype de l'erreur judiciaire. Et on y puise deux enseignements. Le premier, c'est qu'il est bien facile de se tromper. Et le second, c'est que lorsqu'on s'est trompé, il est bien difficile de revenir en arrière et de reconnaître son erreur.
Quand la Première Guerre mondiale éclate, Alfred Dreyfus a 55 ans et il est retraité de l'armée depuis 7 ans. Et alors qu'il aspire au repos, après son combat homérique pour faire reconnaître son innocence, l'ex-capitaine remet son uniforme pour défendre la patrie en danger. Animé par l'esprit de l'Union sacrée, l'Alsacien veut rendre à la France sa région natale et il veut se battre au nom des valeurs de la République. L'engagement d'Alfred Dreyfus dans la Grande Guerre est d'essence patriotique et non nationaliste. Une différence fondamentale entre deux idées de la France que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Personne ne connaissait Dreyfus. Les uns étaient convaincus qu'il était coupable, les autres devinaient qu'il était innocent, mais aucun d'eux ne l'avait vu jamais.
Je m'appelle Philippe Collin. Et vous écoutez Alfred Dreyfus, le combat de la République. Neuvième épisode, le patriote contre les nationalistes.
Vous vous souvenez de l'affaire Dreyfus ?
Ah, l'affaire Dreyfus.
Ça a été un coup de tonnerre.
Un drame dans la vie des Français.
J'accuse.
On allait les uns contre les autres se battre à coups de poing.
L'affaire Dreyfus, on s'y battait pour une idée au-dessus de l'homme.
J'accuse.
Il représentait la justice, la vérité, l'innocent condamné.
Je suis innocent.
On veut une partie de l'opinion. On veut une partie de l'opinion. L'opinion a été divisée.
Erreur judiciaire, justice, liberté, vérité. Encore aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre sur l'affaire Dreyfus et de l'affaire Dreyfus.
Le récit débute en Suisse, à Genève, en juillet 1914. Alfred et Lucie Dreyfus passent leur été chez un couple d'amis, dans une maison cossue et paisible, à l'abri des fracas du monde et du regain des attaques anti-Dreyfusardes.
À bas Dreyfus !
À mesure que le péril allemand augmente, les anti-Dreyfusards viennent s'acharner sur Dreyfus, qui est au fond responsable d'événements qui ont affaibli la France, selon les nationalistes.
L'historien Vincent Duclerc.
Donc Dreyfus se protège, il va fréquemment en Suisse chez ses amis les Naville, et c'est là précisément qu'il va apprendre les préparatifs de guerre, en juillet 1914, et immédiatement, il décide de revenir en France pour être mobilisé et participer à la guerre qui commence. Sur le quai de la gare à Belfort, il apprend aussi la nouvelle de l'assassinat de Jaurès. Et il comprend effectivement que voilà, tout un monde a basculé. Et que désormais, eh bien, l'objectif prioritaire, c'est la victoire de la France.
Après l'assassinat de Jaurès, Dreyfus est frappé par un profond chagrin. Mais le commandant Dreyfus doit vite se ressaisir, car il est mobilisé pour le front et convoqué au fort de Vincennes le 2 août 1914. S'il est heureux de réintégrer cette armée française, il n'en demeure pas moins qu'Alfred Dreyfus part au combat à l'esprit tourmenté par le sort de son fils, sous-officier au 7e régiment d'artillerie.
Lettre d'Alfred Dreyfus à Marie Arconati Visconti, le 20 août 1914.
À mon signal, on gicle ! On y va !
Ma chère amie, je n'ai plus eu d'autres nouvelles de mon fils que celles du 11 août, où il m'annonçait qu'il était vivant et qu'il avait été nommé maréchal des logis sur le champ de bataille. Quelle journée d'angoisse nous vivons. Que de mères versent de larmes. Mais il fallait en finir avec les menaces perpétuelles, avec ces hordes de barbares qui voulaient mettre la France sous le talon de leurs bottes.
Straßburg ist und bleibt eine deutsche Stadt. Straßburg est et restera une ville allemande.
La grande bataille est engagée avec des péripéties diverses. Elle peut parfaitement durer 8 à 15 jours. Je crois à la victoire. Affectueusement à vous, Alfred Dreyfus.
Sur le champ de bataille, le commandant Dreyfus n'a aucune chance de croiser le général Picquart, car celui qui a permis de relancer son affaire en 1897 est mort des suites d'une chute de cheval au mois de janvier 1914. Au départ, Dreyfus est désigné pour être l'adjoint du colonel de la zone nord du camp retranché de Paris.
Il a un grade de chef de bataillon, de commandant. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que dans les armées, il y a le grade et la fonction. C'est-à-dire qu'il a des fonctions qui sont celles de colonel, en fait. Donc il dirige des parts d'artillerie, et puis il participe à cette terrible bataille du chemin des Dames, hein, qui était une erreur magistrale du haut commandement, hein, pour tenter de renverser le front de l'Est.
Nous regroupons certaines unités en vue d'une offensive imminente. Le QG est résolu à tenter une percée.
Et donc, il témoigne de lisibilité des ordres, tout en essayant de les appliquer. Hein. Et on le voit dans son journal, il est très soucieux aussi de ses hommes, des animaux aussi, c'est intéressant, du fait qu'on peut faire la guerre sans multiplier la violence.
Infirmier ! Infirmier !
Alfred Dreyfus, dans Souvenir, 1931.
Bonjour, lieutenant.
Un jour que je m'approchais d'un jeune blessé de 20 ans, amputé des deux jambes et que je cherchais à le consoler.
Vous n'êtes pas du genre à vous plaindre.
Il me dit, en me montrant son voisin aveugle, ce mot touchant. Je plains davantage celui qui est à côté de moi et qui ne peut plus jouir de la vue des prés, des arbres, des fleurs.
Au printemps 1917, Dreyfus prend part à la terrible bataille du chemin des Dames, où il subit les orages d'acier de l'artillerie allemande. Avant d'être déplacé au cœur de l'hiver.
Le 1er janvier 1918, nous nous sommes dirigés sur Verdun par un froid glacial. Nous pataugeons dans la neige. À mon arrivée, j'apprends que nous relevons le 7e corps où sert mon fils que j'ai la joie d'embrasser. Parti simple soldat, il est maintenant lieutenant. Et l'objet de 3 citations élogieuses. L'une à l'ordre de l'armée, les 2 autres à l'ordre de la division.
Sans des hommes comme vous, la terre de nos parents, que nous devons transmettre à nos enfants, serait livrée à la barbarie. Nous sommes fiers de vous.
20 ans après son enfer carcéral sur l'île du Diable, Alfred Dreyfus connaît de nouvelles heures sombres dans les brumes de la Meuse.
J'allais de mon poste de commandement visiter Verdun, un jour où le bombardement n'était pas trop intense. L'impression était inoubliable et aucune photographie ne peut la rendre. C'est un amoncellement de ruines, de pierres enchevêtrées, et le silence qui règne dans les choses mortes produit un effet saisissant. Hélas, ce n'est pas la destruction causée par un cataclysme de la nature. C'est l'œuvre systématique de l'homme.
À la lecture des carnets et des lettres du commandant Dreyfus, on mesure sa lucidité sur cette grande guerre.
Et il analyse de manière très claire ses erreurs du haut commandement, à la fois dans son journal, mais aussi dans les lettres qu'il adresse à son fils Pierre, qui lui aussi est mobilisé en tant qu'ancien élève de l'école centrale et qui finira la guerre comme capitaine, tandis que le commandant Dreyfus, finalement, sera très tardivement promu lieutenant-colonel. Mais sinon, c'est assez peu, compte tenu ne serait-ce de la guerre héroïque qu'il va mener. Et il le dit du reste à son fils Pierre dans une lettre extrêmement forte. Et finalement, les Juifs doivent faire beaucoup plus pour être reconnus. Et lui-même a fait tellement et finalement n'est pas reconnu à sa juste valeur. Donc cette juste valeur, on peut l'établir et c'est du reste que j'ai souhaité faire aussi dans ma biographie.
Lassen Sie das Protokoll verzeichnen. Der Waffenstillstand tritt in 6 Stunden in Kraft. In der 11. Stunde am 11. Tag des 11. Monats.
Très bien. La guerre est finie.
Alfred Dreyfus dans Souvenir, 1931.
La guerre est finie, madame. Ils ont signé l'armistice.
Vint l'armistice, puis la fin de la guerre. Elle nous rendait l'Alsace-Lorraine, qui nous avait été ravie en 1870 et d'où je fus exilé en 1872. Espérons qu'aucune guerre ne pourra plus se produire. Et que les peuples communieront dans un grand souci d'humanité, de confiance réciproque et de compréhension mutuelle.
Alfred Dreyfus sort de la guerre avec un grade de lieutenant-colonel. Quant à Lucie Dreyfus, elle fut infirmière bénévole dans les hôpitaux de blessés. Dans ce conflit, l'un et l'autre ont été animés par un esprit patriotique.
La patrie, le droit et la liberté.
Et non nationaliste. Il est essentiel d'essayer de différencier ces deux mots entre 1914 et 1918. Appuyons-nous à nouveau sur Maurice Barrès, à la fois écrivain patriote, mais avant tout chantre d'un nationalisme français réitéré. Alors, que peut-on dire de l'esprit nationaliste en France durant la Première Guerre mondiale ?
Maurice Barrès, en 1917, publie ce livre qui s'appelle « Les grandes familles de la France », qui est un ouvrage fondamental pour comprendre tout cela.
L'historien Pierre Birnbaum.
Puisque que dit-il ? Il dit qu'enfin les Juifs meurent pour la France. Les Juifs réintègrent, au moment de la Première Guerre mondiale, les grandes familles de la cité française et Barrès, qui a été le chantre de l'antisémitisme le plus virulent, en même temps le prince des lettres, un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature française, Barrès réintègre les Juifs. Avait-il besoin d'être réintégré ? Pourquoi avait-il besoin ? À cause de l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus qui les avait expulsés dans leur imaginaire de la société française. Ils sont réintégrés. Pourquoi ? Parce que le brave capitaine Dreyfus, il remet son uniforme et il retrouve son fils qui se bat à Verdun. C'est-à-dire, il est soldat avant tout de la France. Et il ne meurt pas sur le champ de bataille, le capitaine Dreyfus. Mais un nombre très important de citoyens juifs français meurent. Lorsque la guerre sera terminée, l'antisémitisme renaîtra. Et vous verrez, jour après jour, des listes de soldats, des listes publiées par l'extrême droite, qui essaient de montrer que la proportion de Juifs français morts sur le champ de bataille est inférieure à la proportion de non-Juifs. C'est-à-dire que les Juifs ont à nouveau trahi, ne se sont pas battus pour défendre la terre française.
Votez Auguste.
Mort la France.
Sergent Grandbois Armand.
Mort la France.
C'est faux. Montreront un grand nombre de publications comme l'Univers israélite, les archives israélites, qui vont mettre des années à publier d'horribles listes où école par école, école normale supérieure, école polytechnique, école par école, on va mesurer au pourcentage près le nombre de Juifs morts pendant la Première Guerre mondiale par rapport aux non-Juifs. Et il y aura pratiquement toujours davantage de Juifs que de non-juifs, au pourcentage près. Mais il va falloir encore tout faire pour réintégrer, avec ces chiffres effrayants, ces juifs dans cette société française. Or, pourquoi est-ce que Barrès réintègre enfin, pendant la Première Guerre mondiale, les juifs dans les grandes familles qui se sont battues pour défendre la terre française? Les noms qu'il cite, les soldats qu'il cite, qui meurent sur le champ de bataille, ce sont tous des soldats, pratiquement tous d'extrême droite. Ou bien des soldats qui meurent en laissant des témoignages bouleversants, disant « je verse mon sang ». Donc je ne défends pas les droits de l'homme attaqués par le Reich. Je ne défends pas la République, je ne meurs pas pour la République. Ce qui est dit explicitement, c'est « je donne mon sang à la terre française ». Et Barrès les félicite de donner leur sang. Ce sont des expressions bouleversantes de soldats qui envoient leur dernière lettre à leur épouse, comme Robert Hertz, comme un grand nombre d'étudiants de l'école normale supérieure, les élèves de Durkheim, dont son fils, qui vont mourir en grand nombre. La promotion de normaliens meurt, et les juifs, dans cette promotion, ne sont pas de nombre négligeable. Il meurt, au fond, en se référant aux idéologies barésiennes, à la grande joie de Barrès lui-même.
8 mois de guerre ont engendré chez des citoyens qui hier étaient des paysans, des ouvriers, des bourgeois, et que voilà soldats, les émotions les plus élevées et les plus profondes.
Maurice Barrès, 1915.
Quand se pose chaque jour la question de vie ou de mort, les sentiments cessent de s'embrouiller et reprennent la place que leur assigne la nature. Les vertus essentielles d'où naît toute société réapparaissent. Quel grand sujet d'étude, les Français dans les tranchées.
C'est-à-dire que, là encore, on voit comment cette question de l'intégration à la France passe par la terre et les morts, par le sang, davantage que par la science, le positivisme, la République et les droits de l'homme. Là encore, cette ambiguïté demeure. Et dans le texte de Barrès, il ne dit rien des morts juifs immigrés qui rejoignent les troupes françaises et tombe au champ de bataille.
Mort la France !
Il n'en parle pas. Ceux qu'il réintègre dans les grandes familles françaises, ce sont ceux qui versent leur sang et qui sont nés non pas de Français de papier, comme on dirait aujourd'hui, mais de Français de terre, de terroir.
Maurice Barrès, 1901.
La nationalité française. Une énergie faite sur notre territoire de toutes les âmes additionnées de mort.
Résumons. Dans son essai « Les diverses familles spirituelles de la France », publié en 1917, Maurice Barrès vante l'égalité et la fraternité des tranchées. Mais au fond, la seule chose qui compte aux yeux d'un nationaliste, c'est le sang versé par le soldat français. Et certainement pas les valeurs de la République, comme la justice, la dignité humaine ou le progrès social. Des valeurs auxquelles croit le patriote Dreyfus, à l'opposé des caricatures dont il a été si longtemps victime.
Dreyfus est combattant, héroïque, visionnaire, et n'a rien, je veux dire, d'un petit boutiquier n'avançant que pour ses intérêts personnel. Hein. Dreyfus a une claire conscience du combat qui a été mené pour lui. Il le dira du reste dans un extrait qu'il enregistrera aux Archives de la Parole, combien l'affaire Dreyfus, même si elle a été terrible pour lui, a quand même signifié un progrès de l'humanité, un progrès des sociétés, et c'est ça ce qu'il retient.
Voici un second extrait du seul enregistrement que nous ayons de la voix d'Alfred Dreyfus. Nous sommes en 1912 et il a pleinement conscience des ressorts de la cause dreyfusarde.
Tous ceux qui avaient combattu pour la justice constituèrent à l'une des heures de relèvement les plus extraordinaires dont le monde était des témoins.
Tous ceux qui avaient combattu pour la justice contribuèrent à l'une des œuvres de relèvement les plus extraordinaires dont le monde était des témoins. Une de ces œuvres qui retentissent jusque dans l'avenir le plus lointain, parce qu'elle aura marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité, une étape grandiose vers une ère de progrès immense des idées de liberté, de justice et de solidarité sociale. Récapitulons. Durant la Première Guerre mondiale, les nationalistes mettent en avant le sacrifice du sang des poilus pour défendre la terre de France. Les patriotes préfèrent exalter la défense des valeurs de la République. Faites votre choix. Par ailleurs, durant cette Première Guerre mondiale, où se trouve le commandant Esterhazy, cet officier français qui fut le véritable coupable de l'affaire Dreyfus?
Donc lui, il est parti en Angleterre. Il est tranquille, en fait, puisque il a été acquitté pour le crime qu'il a commis, donc il est tranquille. Après, on pouvait l'embêter pour d'autres choses, mais bon, du coup, l'amnistie va tout effacer.
L'historien Philippe Auriol.
Donc, il est en Angleterre. Il continue à s'amuser énormément en publiant à droite à gauche des trucs dans lesquels il raconte sa lecture de l'affaire Dreyfus, tout à son avantage, bien évidemment, mais tout en reconnaissant qu'il est l'auteur du bordereau, mais en expliquant qu'en fait, il a écrit le bordereau pour le bien de la France, puisque c'était un agent double, etc., thèse qui ne tient pas une seconde, mais peu importe. Et donc, il va vivre en Angleterre avec énormément de difficultés pendant très longtemps, ce qui indique d'ailleurs que la thèse anti-Dreyfusarde qu'on entend sortir encore aujourd'hui, là, de l'homme de paille des Juifs qui aurait été payé, tient peu, parce que s'ils l'ont payé, ils n'ont pas donné grand-chose, parce qu'il a eu grosses difficultés. Et donc, il va vivre sous divers pseudonymes, Sullivan, Smith, le comte de Voilemont, qui est le nom qu'on voit sur sa pierre tombale.
Fluctuat nec margitur. Je plonge, mais je ne coule pas.
Et il va faire son petit commerce, il va continuer à faire des tas de choses, à essayer de trouver de l'argent. À un moment, il y parviendra, il se mariera là-bas, avec une femme dont le prénom est Alsace, ce qui est tout à fait formidable. Et il meurt en 23. Et ce qui est intéressant, c'est que de 1903 à 1906, il continue à collaborer aux journaux français, et un journal avec lequel il collaborait avant l'affaire Dreyfus, qui est La Libre Parole d'Édouard Drummond, bien évidemment. Et ensuite, il écrira pour L'Éclair, le journal L'Éclair, qui est à l'époque dirigé par Ernest Judet, qui était l'ancien directeur du Petit Journal, grande figure de l'antidreyfusisme. Donc en fait, Esterhazy n'a jamais varié. Voilà. Personnage fascinant.
Le commandant Esterhazy meurt donc en 1923 en Angleterre, sans avoir pris part au combat et surtout sans jamais avoir été condamné. Revenons à Alfred Dreyfus. Il sort de la guerre épuisé et endeuillé par la perte de ses deux neveux, dont Émile, le fils de Mathieu Dreyfus. Néanmoins, la famille s'agrandit, avec la naissance de 8 petits-enfants dans les années 20. Et ce nouveau grand-père leur consacre du temps, non sans rester vigilant quant à la marche du monde.
Le sort des Juifs va rapidement s'aggraver en Europe, y compris en France. Hein. Bon, le mythe de l'union sacrée, du fait que les Français d'origine juive et les Français qui ne sont pas d'origine juive se retrouvent dans la fraternité des tranchées, que donc on oublie l'antisémitisme, ça va faire long feu. Hein. Et très rapidement, on retombe dans des stéréotypes antisémites.
Vincent Duclerc.
Puis, dans les années 30, une violence antisémite qui se dirige, on le sait de manière très claire, contre en particulier les Juifs allemands, les Juifs autrichiens. Et Dreyfus, avec son épouse, avec ses amis, avec sa famille, s'occupe donc d'accueillir des Juifs d'Europe centrale et orientale, des Juifs d'Allemagne. Il y a une solidarité, qui est une solidarité laïque. Dreyfus n'est pas sioniste, hein, il a vu du reste comment les Français étaient prêts à venir le défendre. Donc il ne comprend pas qu'on puisse renoncer à la France pour un possible foyer national juif ou un État juif en Palestine.
Au début des années 30, Alfred Dreyfus n'est pas sioniste. Et pourtant, cette aspiration à créer une nation juive est née en partie de l'affaire Dreyfus, notamment dans l'esprit d'un journaliste en 1896.
Theodor Herzl, c'est un juif qui est né en Hongrie.
L'historien Milo Lévy-Brulle.
Donc il fait des études à l'université et il devient véritablement un juif assimilé dans cette Vienne de la fin du 19e siècle qui est encore extrêmement libérale. Donc un juif assimilé, un juif totalement déjudaïsé d'un point de vue religieux, et puis une figure de plus en plus importante des milieux intellectuels viennois. C'est quelqu'un qui va notamment écrire un certain nombre de pièces de théâtre qui vont connaître un peu de succès, mais le domaine dans lequel il va vraiment réussir et se faire un nom, c'est le journalisme. Donc il va devenir journaliste du principal quotidien viennois de l'époque, et dans ce cadre-là, il va être envoyé comme correspondant à Paris au début des années 1890. Donc il couvre essentiellement la vie politique et parlementaire, mais il est nécessairement confronté à la première affaire Dreyfus, enfin au premier procès de 1894, donc qui va couvrir aussi également.
Herzl, die neue Freie Zeitung von Wien.
Monsieur Theodor Herzl, de la Nouvelle Presse Libre de Vienne. Premier escalier à droite.
Et alors ce qui est intéressant avec Théodore Herzl, c'est que, en fait, dans ce va-et-vient entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, il va être confronté à des explosions de l'antisémitisme. Donc, à la fois à Vienne, qui mèneront quelques années plus tard à l'élection d'un maire antisémite à la tête de Vienne, et puis évidemment à cette explosion de l'antisémitisme en France, qui est là avant et qui accompagne ensuite toute l'affaire Dreyfus et la dernière décennie du 19e siècle. Et de cette ambiance un peu généralisée, il va tirer un diagnostic assez original, enfin que peu de juifs de l'époque ont tiré, l'idée que l'assimilation est une impasse.
Et si nous faisions fausse route? Si la voie du salut n'était pas celle de l'émancipation des juifs, de leur assimilation par les diverses sociétés où ils vivent?
Et qu'en fait, contrairement à ce qu'espère et ce que croit une partie des Juifs, soit déjà assimilés, soit en cours d'intégration, il n'y aura pas d'âge dans les sociétés libérales où l'antisémitisme aura disparu. Et donc de ce diagnostic-là, il déduit la nécessité du sionisme.
Il nous faudra mourir pour une patria, non, pour un État juif.
C'est-à-dire de la fondation d'un État pour les Juifs.
Ni émancipation, ni assimilation, une patrie pour les Juifs.
C'est un sionisme qui se construit essentiellement sur la base de la permanence de l'antisémitisme et en vue de la fondation d'un État pour les Juifs qui soit un État refuge. C'est ce qui va le conduire à avoir une action extrêmement importante et extrêmement nouvelle pour le mouvement sioniste, c'est-à-dire une action diplomatique. Il va solliciter les différentes grandes puissances géopolitiques de l'époque pour dealer avec eux, en fait, l'existence, la légitimité et l'accord général pour la fondation d'un... Alors, État, le terme est discuté, en fonction des textes, c'est État, parfois c'est foyer de peuplement, etc. Mais en tout cas, d'un établissement des Juifs en Palestine.
Adolf Hitler ist an das Fenster getreten.
Face à la montée des périls pour les démocraties, Alfred Dreyfus s'inquiète du sort des Juifs en Europe. Mais éreinté par la vie, il trouve refuge dans la joie des voyages en famille.
Alfred Dreyfus dans Souvenir, 1931. Chaque année, quand arrivait la période des chaleurs, nous partions avec nos enfants dans la montagne. Quand le temps devenait trop mauvais ou trop frais pour rester à l'altitude, nous descendîmes vers l'Italie. C'est ainsi que nous avons séjourné au bord des lacs du nord de l'Italie, que nous avons tant aimé pour leur jolie lumière, leur calme et leur admirable flore.
En fait, Dreyfus est discret, il y tient et il essaye de ne pas paraître.
Philippe Auriol.
En revanche, il tire des notes tout le temps sur l'affaire Dreyfus, sur tout ce qui paraît partout. On en connaît malheureusement, on connaît que des notes de 1931, on n'a pas les autres, mais c'est sûr, puisque ses souvenirs ont été construits à partir de ces notes et tout. Donc il reste vigilant. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui continue à être engagé et à ne pas oublier. Sur un certain nombre de procès, il sera présent dans les instances directrices ou dans les choses comme ça. Et par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas connu mais qui est absolument prodigieux, il fait partie, c'est une des grandes figures du comité de soutien à Sacco et Vanzetti. Voilà, ça c'est intéressant.
Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, deux anarchistes d'origine italienne, ont été accusés aux États-Unis d'avoir commis deux braquages meurtriers. Dans un contexte de xénophobie généralisée, leur procès fut politique. Sacco et Vanzetti ont été désignés comme des suppôts du bolchevisme. Condamnés à mort, ils sont exécutés en 1927, malgré les comités de soutien dans le monde entier, au sein desquels s'est engagé Alfred Dreyfus.
Nicolas Sacco, avez-vous quelque chose à dire ?
Non.
Bartolomeo Vanzetti, avez-vous quelque chose à dire ?
Oui, j'ai à dire que je suis innocent.
En 1935, deux ans après l'arrivée des nazis au pouvoir à Berlin, l'ex-capitaine Dreyfus a 76 ans. Il vit à Paris, très affaibli, mais entouré des siens.
Témoignage de Jean-Louis Lévy, petit-fils d'Alfred Dreyfus. J'allais le voir le jeudi, dans son petit bureau de la rue des Renaudes. Penché sur sa collection de timbres, il fumait silencieusement la pipe. Je n'osais lui poser de questions. Jamais il ne nous parla de l'affaire, ni de son martyre à l'île du Diable. Je savais, par ma grand-mère, que des cauchemars hantaient ses nuits, la double boucle, le plomb du soleil tropical. Je le revois, boulevard de Courcelles, fragile, voûté, nerveux, marchant d'un pas pressé, sa grosse montre toujours à portée de main.
1935, en fait, c'est une très mauvaise année pour mourir, quand on s'appelle Dreyfus. Parce que, bah, il y a eu le 6 février.
34.
34. On est dans une période qui est pour le moins troublée. Et en fait, la mort d'Alfred Dreyfus passe quasi inaperçue.
Je vous fais toutes mes condoléances, sincèrement.
Je le revois sur son lit de mort, avec un regard tendre et désarmé que je n'oublierai jamais. Un regard bleu de myope, d'une tendresse déchirante. Un regard retourné.
Alfred Dreyfus meurt chez lui, le 12 juillet 1935. Deux jours plus tard, le 14 juillet, le cortège de ses obsèques est assez modeste au regard de l'immense notoriété du défunt. Ce cortège, qui se dirige vers le cimetière Montparnasse, passe par la place de la Concorde, où sont stationnées des troupes militaires à l'occasion de la fête nationale. Et voyant que ce cercueil arbore les insignes de la Légion d'honneur, les officiers présents décident aussitôt de rendre un hommage militaire à ce cortège funéraire inattendu, sans savoir qu'il s'agit du colonel Dreyfus. Une anecdote qui en dit long sur le fait que Dreyfus reste victime, au mieux, d'une forme d'indifférence. Par ailleurs, ce jour-là, au même moment, se tiennent les assises pour la paix et la liberté.
14 juillet 1935. Ici, les assises de la paix et de la liberté.
Des assises qui constituent une étape essentielle vers la création du Front populaire l'année suivante.
La parole est au représentant du Parti communiste, Jacques Duclos.
Camarades, oui, nous sommes les défenseurs de la liberté contre les fascistes. Et nous jurons de tout faire pour que l'union réalisée aujourd'hui continue demain. À l'avant, sous le drapeau du Front populaire. À l'avant, peuple de France, le fascisme ne passera pas.
L'écrivain Jean Guénaud témoigne que lorsque les participants aux assises apprennent la mort du capitaine Dreyfus, eh bien, il témoigne que d'un seul mouvement, toute la foule qui peuplait l'immense amphithéâtre se leva. Et dans un silence qui saisissait le cœur, chacun pensa à ce mort. Voilà ce que de lui-même peut le peuple, la cohue. Il n'est pas un de nous qui, à la limite des larmes, n'ait senti qu'il se faisait dans ce moment, d'une génération à l'autre, comme une transmission, une tradition de la justice.
Discours du grand rabbin Maurice Libert à l'enterrement d'Alfred Dreyfus le 14 juillet 1935. Aujourd'hui, ce n'est plus un juif, c'est un demi-million de juifs qui sont injustement persécutés en Allemagne, victimes non pas même d'une erreur judiciaire, mais de haine barbare qui ne s'embarrasse d'aucune forme de procès.
Qu'est-ce que tu fais? Le maréchal va parler, dépêche-toi!
Le 10 juillet 1940, 5 ans après la mort d'Alfred Dreyfus, Philippe Pétain liquide la République.
C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat.
Et quelques semaines plus tard, en octobre, le maréchal met en place sa funeste politique.
Français, c'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Une collaboration a été envisagée entre nos deux pays. J'en ai accepté le principe. Les modalités en seront discutées ultérieurement. Suivez-moi. Gardez votre confiance en la France éternelle.
Cette politique de collaboration avec le Troisième Reich, désirée et vantée par Philippe Pétain, vient percuter le destin de la famille Dreyfus.
C'est un destin qui est marqué par la Seconde Guerre mondiale. Une famille, il faut le dire d'abord, extrêmement résistante.
Vincent Duclerc.
Résistante déjà parce qu'il y a une volonté d'échapper à la persécution. Lucie Dreyfus va se cacher dans un couvent à Valence, sous un faux nom. Et l'ensemble de ses enfants, ses petits-enfants, tous, à des niveaux divers, sont dans la résistance, dans la France libre, y compris les enfants de Pierre qui sont aux États-Unis. Charles Dreyfus s'engage dans les forces françaises libres. Et puis en France, les enfants de Jeanne, et notamment Madeleine et Marguerite, sont résistantes. Pour Madeleine Lévy, eh bien, cette résistance s'interrompt avec la dénonciation qu'elle subit donc à Toulouse, où elle sert le mouvement Combat. Elle est arrêtée. Et elle est déportée à Auschwitz-Birkenau, donc elle passe d'un statut de résistante à un statut de déportée raciale. Et elle meurt à Auschwitz-Birkenau. Et son nom, il faut le rappeler, est gravé sur la tombe du capitaine Dreyfus, à côté du nom du capitaine Dreyfus. Et c'est une terrible tragédie, et ça montre aussi le courage patriotique des enfants, des descendants du capitaine Dreyfus.
Ajoutons un dernier mot sur Lucie Adamar, celle qui n'a jamais flanché aux côtés du capitaine Dreyfus.
Alors Lucie Dreyfus lui survit, elle meurt en 45, Lucie Dreyfus. Donc elle lui survit de 10 ans et elle va connaître la Deuxième Guerre mondiale.
Philippe Auriol.
Et elle meurt peu de temps après la fin de la guerre, en n'ayant jamais su d'ailleurs que sa petite fille qu'elle aimait tant ne reviendra jamais, puisqu'elle est morte du typhus à Auschwitz. Voilà. Et Lucie ne le saura jamais. Et là, c'est étonnant parce que cette famille de traîtres, encore une fois, verra tous ses enfants entrer dans la résistance, dans des groupes aussi importants que le groupe Combat, par exemple.
Étourdissant, ça aussi, ce destin de la Seconde Guerre mondiale pour la famille Dreyfus.
Ouais. Et donc voilà, ils sont tous résistants, même les gamins, quoi, même les petits, etc. Ils sont tous partout, en France ou ailleurs.
Honneur et patrie.
Sachez enfin qu'Alice, la belle-sœur d'Alfred Dreyfus, a été déportée à Auschwitz. Elle y est morte en 1945. Et soyons à peu près certains que si le capitaine Dreyfus avait vécu quelques années de plus, il aurait lui aussi été déporté dans un camp nazi. Ahurissant.
Le maréchal Pétain parle à la France.
C'est vers l'avenir que désormais nous devons tourner nos efforts. Un ordre nouveau commence.
dans cet ordre nouveau, sous la férule des nazis, l'historien Philippe Auriol a noté un aspect intéressant.
Pendant l'occupation, l'affaire Dreyfus disparaît complètement. Pratiquement complètement. Par exemple, dans la grande expo de Berlitz, Le Juif et la France, l'affaire Dreyfus n'est pas convoquée. Et quand on regarde tous les bouquins, je me les suis tous lus, tapés, allais-je dire, qui ont été publiés par chaque petit organisme anti-juif qui existait en France d'une manière tout à fait officielle pendant l'occupation, on trouve peut-être 15 lignes au total sur l'affaire Dreyfus. On n'en parle absolument jamais. Et ça, ça pose une vraie question qui est vraiment passionnante. Alors, la réponse est assez évidente, hein, déjà. Bah, c'est qu'il y a beaucoup de figures de la collaboration à ce moment-là qui sont d'anciens Dreyfusards, munichois au départ et qui sont passés de l'autre côté. Et puis après, bah, c'était assez difficile de mettre en avant une affaire qui mettait en jeu l'Allemagne, quoi. Donc en fait, on préfère la faire disparaître, parce que pour les bonnes relations avec l'occupant, c'était quelque chose de pas simple, voilà.
Oui, parmi les collaborateurs français, aussi contre-intuitifs que cela puisse paraître, on recense plusieurs anciens Dreyfusards. Notamment chez les pacifistes de l'entre-deux-guerres, qui préféraient tout plutôt que la guerre.
Tous debout pour choisir la vie, pour refuser la guerre avant qu'il ne soit trop tard.
Et qui ont fini soit pro-allemand, soit au service du régime de Vichy.
France avant tout, il n'est pour nous de politique que celle du maréchal dans l'honneur et la dignité.
Au fond, tout le discours de Vichy, c'est que la Troisième République trahit la France. Et pourquoi a-t-elle trahi la France ? En particulier parce qu'elle a promu à travers la République le régime républicain de la méritocratie républicaine un certain nombre de juifs à l'état-major.
Pierre Birnbaum.
Le caractère exceptionnel de cette affaire Dreyfus, il est là. Il revient à prendre en considération le caractère exceptionnel de la Révolution française. C'est-à-dire, c'est la Révolution française qui a introduit les droits de l'homme, la méritocratie, la Troisième République, le régime des instituteurs de la République. C'est-à-dire, à travers cette méritocratie et cette reconnaissance de l'égalité des citoyens reconnue en 1791, les Juifs sont entrés dans la méritocratie républicaine. Il y a, en 1914, 7 généraux qui portent des noms juifs, qui dirigent des corps de l'armée française. C'est unique. Ni les démocraties anglaises, ni la démocratie américaine, ni a fortiori les régimes autoritaires comme la Russie ou l'Allemagne de l'époque, ne nomment un seul juif à l'état-major, ni même à la fonction de général. C'est-à-dire que il y a là une sorte de prolongation de ce que je nomme encore, même si l'expression devient de plus en plus critiquée, une sorte de guerre franco-française, en tout cas de conflit entre une Révolution française des droits de l'homme qui émancipe ces Juifs, et puis la contre-révolution qui naît immédiatement dès le lendemain de la Révolution française, par avec de Bonald, de Maistre, qui va se poursuivre tout au long du XIXe siècle pour aboutir enfin à Vichy, c'est-à-dire effectivement la fin de la Révolution française, la fin des droits de l'homme. Il y a là une sorte de permanence. Prenez pour preuve de la continuité des deux épisodes. Vichy dénonce les Juifs qui dominent la République. Ce sont les Juifs qui ont eu accès, à cause de la Révolution française, tant dénoncée par Vichy, ils ont eu accès, à travers la méritocratie républicaine, aux échelons les plus élevés de la haute fonction publique, les généraux, des ministres, des capitaines, et même, ils ont eu accès à l'état-major de la République.
Archives collaborationnistes, 1941.
Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs. Après avoir jeté dans la guerre un peuple profondément attaché à la paix, ils ont conduit la France vers la plus totale défaite de son histoire. Telle fut l'œuvre destructive des Juifs en France.
Donc c'est eux qui ont trahi cette République, et si la Troisième République a échoué, si la Troisième République n'a pas été capable de faire face à l'ennemi allemand, c'est parce que la Troisième République a permis l'accès des Juifs au niveau supérieur de l'État, et donc a affaibli cette République, elle l'a dégénérée, de certaine manière. La grande expression de Vichy, c'est la dégénération à cause de la place des Juifs dans cette République, qui a touché l'ensemble de la société française, qui a perdu ses valeurs, qui s'est éloigné de la terre, qui s'est donné à ces juifs cosmopolites, qui ne sont pas capables de comprendre les valeurs de la terre que Vichy va réhabiliter. Il y a là une sorte de refus de l'émancipation des Juifs de 1791, qui aboutit au fait que Dreyfus, grâce à la méritocratie et grâce à son succès à l'école polytechnique, s'il est nommé à l'état-major de la République, c'est grâce à son succès au concours difficile de l'école polytechnique. Donc, c'est la méritocratie républicaine qui est responsable. Ce sont les instituteurs de la République qui sont responsables. Ils se sont détachés de la terre et des morts. C'est là l'accusation. Elle va faire les choux gras de Vichy et elle va justifier, d'une certaine manière, l'antisémitisme déchaîné de Vichy et l'arrestation des Juifs étrangers, mais aussi, et on l'oublie trop souvent, des Juifs français.
Ah, il faut moins les fiers, pas vrai ?
Dehors, la vermine juive !
Des généraux juifs de l'armée française sont arrêtés. Des députés, des ministres sont arrêtés et déportés.
Vous êtes en état d'arrestation, monsieur le ministre.
Parmi les anciens ministres arrêtés, on trouve Jean Zay, jeune ministre du Front populaire, de culture juive, un cas qui agite les vieilles obsessions des nationalistes du régime de Vichy.
Il y a vraiment une obsession au point, par exemple, que Jean Zay, qui est arrêté, à un moment donné, Vichy imagine de le déporter à l'île du Diable pour réitérer, en fait, le sort de Dreyfus.
Un rocher désert, il sera tout seul. L'île du Diable.
Et cette obsession anti-républicaine, anti-Dreyfusarde, antisémite de Vichy profite d'une certaine manière à la réactivation de la mémoire Dreyfusarde à travers Jean Zay, à travers Jean Cassou, par exemple, qui est un très proche du ministre de l'Éducation nationale Jean Zay, à travers Jean Moulin, qui confiera à Daniel Cordier, comme Daniel Cordier le rapportera, que la République, pour lui, c'est d'abord le combat Dreyfusarde, qui lui a été légué par ses parents, par la tradition.
Je m'appelle Daniel Cordier.
Archives INA, 2002.
Qui est Jean Moulin ? Il appartient à une famille républicaine et son père a une caractéristique très importante. Il s'est engagé à fond dans la bataille pour faire reconnaître l'innocence du capitaine Dreyfus qui avait été accusé de trahison parce qu'il était juif. Et c'est cet idéal républicain de justice sociale dont Jean Moulin a nourri toute son enfance.
Donc même si la dimension Dreyfusarde de la résistance est faible et que l'objectif était aussi de ne pas associer trop l'affaire Dreyfus à la résistance pour ne pas faire en sorte que la résistance apparaisse comme trop dirigée vers le soutien aux Juifs. C'est toute la grande question qui se pose sur la Seconde Guerre mondiale. Il n'empêche que c'est une réalité portée aussi par de jeunes Dreyfusards qui sont en âge d'organiser cette résistance. Donc là, il y a un passage de témoin qui est assez fort, mais qui n'empêchera pas le repli de l'affaire après la Seconde Guerre mondiale.
Lucie Aubrac, sur France Inter, en 2000.
Mes institutrices étaient des femmes qui avaient vécu toute la révision du procès 15 ans avant, quand elles étaient adolescentes ou déjà jeunes institutrices, du procès qui allait arriver à réhabiliter Dreyfus. Si bien que, à la fois les difficultés économiques de ma famille et à la fois ce sentiment que j'appartenais à une période, mon père était grand blessé de la guerre de 14, à une famille qui avait souffert de la guerre, et puis à une nation qui réparait une injustice. Alors le mot « c'est pas juste » a été très tôt dans mon vocabulaire.
Lucie Aubrac, lors d'un colloque sur l'affaire Dreyfus, en décembre 2006. Dans mes souvenirs, l'affaire Dreyfus était quasiment le préambule obligatoire à toute conversation précédant un engagement dans la résistance. Pensez à ces femmes et à ces hommes de la fin du XIXe siècle qui, installés dans une société bourgeoise, ont risqué leur statut, leur avenir et même leur liberté pour protester contre une injustice ne concernant qu'un seul homme.
Je le jure, je suis innocent.
En créant la Ligue des droits de l'homme qui nous prouve, en organisant ce colloque, que les efforts contre une grande injustice peuvent mobiliser tout un pays pour que triomphent et perdurent les valeurs d'égalité et de fraternité.
Et je me rappellerai, j'en parle toujours quand je vois des élèves, de cette distinction qu'une de mes institutrices a faite entre le mot patriotisme et le mot nationaliste, en nous disant le patriotisme c'est une porte ouverte en France et le nationalisme c'est une porte fermée aux autres.
Enfin, souvenez-vous, le rêve français d'Alfred Dreyfus était porté par ce qu'on appelle l'israélitisme, c'est-à-dire la volonté au sein des Juifs français d'intégrer pleinement la communauté nationale.
Je m'appelle Alfred Dreyfus. Je suis un Français comme les autres.
Alors, après la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on peut dire de la réalité de cet israélitisme ?
L'affaire Dreyfus avait marqué le risque de l'israélitisme quand l'État se retourne et en même temps l'avait corrigé, avait réparé la défaillance.
Milo Lévy-Brulle.
Vichy a posé la question sur un tout autre mode, c'est-à-dire les Juifs ne peuvent pas ne pas se dire que l'État peut trahir à nouveau, rompre le pacte à nouveau. Tandis que après l'affaire Dreyfus, on pouvait se dire encore que c'était une erreur et en plus qu'on pouvait le mettre sur le compte de l'action, de la persistance antisémite, contre-révolutionnaire, etc. Vichy change toutes les coordonnées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus personne ne se dit israélite. Les institutions qui portaient ce nom-là ont changé de nom. Le CRIF, c'est, au départ, c'est Conseil représentatif des Israélites de France. Aujourd'hui, c'est Conseil représentatif des institutions juives de France. Donc même dans le nom, le terme n'a plus de signification. Précisément parce que la promesse qui sous-tendait cette auto-transformation des Juifs a été trahie de telle sorte que aucun Juif, même s'il le voulait, ne pourrait y croire à nouveau avec la sincérité avec laquelle il y a cru. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé, et donc on, même si on le voulait, même si on nous disait « Allez, on recommence à zéro, on vous assure que ça ne se passera jamais », ce qui a eu lieu a eu lieu. Et donc, les subjectivités juives sont travaillées par ce qui s'est produit, par la trahison de l'État et la collaboration avec une entreprise d'extermination, qui fait que ce modèle-là, il ne peut plus du tout être le modèle unique.
Il est brisé.
Il est brisé dans sa prétention à être une solution. C'est-à-dire que les Juifs français sont extrêmement patriotes. C'est pas du tout la question, mais la question de la croyance absolue dans la sécurité qu'apporte l'État français de telle sorte que on puisse tout miser là-dessus, ça c'est brisé.
En conclusion de ce 9e épisode, retenez d'abord que la Première Guerre mondiale a démontré le patriotisme républicain d'Alfred Dreyfus.
On y va !
Un engagement sans éclipse qui a été bafoué par le régime de Vichy, puisque les nationalistes pétainistes ont harcelé, pourchassé et déporté la famille Dreyfus, victime d'un antisémitisme d'État, au même titre que tous les Juifs de France sous l'occupation. Une rupture et une infamie dans notre histoire nationale. Néanmoins, en 2006, un siècle après la réhabilitation du capitaine Dreyfus, le président Chirac a prononcé un discours fondamental à l'occasion de cet anniversaire.
La tragédie du capitaine Dreyfus fut un moment de la conscience humaine. Elle continue à résonner fortement dans nos cœurs, dans nos esprits. Après avoir divisé le pays, elle a contribué à fortifier la République. Elle fut le creuset où finirent de s'élaborer les valeurs humanistes de respect et de tolérance. Les valeurs qui, aujourd'hui encore, constituent notre ciment.
Et que devons-nous aujourd'hui, en tant que nation, au combat du capitaine Dreyfus ? C'est l'horizon du prochain épisode. Alfred Dreyfus, le combat de la République. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet. Lecture, Éric Ruff et Clotilde Debézère, sociétaire de la Comédie-Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer et Baptiste Collion. Prochain épisode, l'héritage Dreyfusard. Alfred Dreyfus, le combat de la République, est un podcast original de France Inter.